C'est l'heure de parler politique et de conclure cette semaine politique qui a été, ma foi, très fertile en rebondissements de toutes sortes, notamment dans le dossier des migrants. Donc, on va finir ça en beauté, en compagnie, comme c'est notre habitude, d'Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour, Alec!
Bonjour!
Et Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour Antoine!
Bonjour les crapauds!
Alors, mon cher Antoine...
Oui!
Oh, c'est Fred qui est là aujourd'hui. Il est vite sur le piton. Merci Fred. Alors ça, c'était le crapaud, le premier, le crapaud. Après ça, la grenouille. Il nous manque le wawaron. Ah, voilà, le wawaron. Très bien.
Tout de suite, hein?
Le marais des batraciens, toujours aussi sympathique. Parlons donc de ce jugement sur la loi 99, la loi sur le droit à l'autodétermination du Québec.
Ben oui.
La Cour supérieure qui a donné raison donc au Québec, à Lucien Bouchard, Joseph Facal et compagnie.
Oui, cette loi qui avait été adoptée en réplique à la loi sur la clarté qui voulait réitérer le droit du Québec à son autodétermination et aussi donc faire en sorte qu'un prochain référendum pourrait être gagné pour le oui à 50 plus 1. Mmh. Pour le non, là, mais pour le donc ça déclencherait finalement une procédure de
négociation,
de négociation exactement parce que les référendums, comme le rappelle la juge Claude Dallaire dans son jugement, sont consultatifs au Québec. Donc c'est quelque chose là. Quand même.
Oui. Oui, parce que moi,
c'est un jugement qu'on n'attendait pas. Moi, je m'attendais à ce que ça soit démoli assez facilement.
Tu pensais que la Cour supérieure allait donner raison au fédéral?
Absolument.
Enfin, M. Anderson, appuyé
parce que
par le fédéral.
M. Anderson, le chef du Parti Égalité, dans le temps, il n'est plus chef du Parti Égalité. Puis je pense que le parti, bon, il est peut-être encore reconnu, mais il n'a pas vraiment de signe de. Donne pas vraiment de signe de vie. Contestait ça depuis 17 ans.
Oui.
C'est quelque chose. Alors, il y a les souverainistes qui crient victoire. Moi, je pense que c'est une victoire peut-être temporaire.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, ça va aller en appel, ça.
Tu penses?
Ils ont 30 jours pour aller en appel.
Parce que M. Anderson ne s'est pas encore prononcé.
Silence radio de sa part.
Oui.
Moi, j'ai l'impression que tout peut arriver en appel. Là. Tout peut arriver, on le sait. Il y a des... ça arrive, là. C'est pour ça qu'il y a des appels, il y a des tribunaux.
C'est
d'appels.
Clair, c'est clair.
Donc, c'est possible. Mais pour l'instant, écoute, même Philippe Couillard est content. Il nous a dit toute décision qui confirme les prérogatives et compétences du Québec, c'est une bonne décision. Mais en même temps, il a souligné le fait que si ça valide le processus, cette loi-là ne fait pas en sorte non plus de dire que le Québec peut y aller tout seul. C'est-à-dire à la souveraineté. Donc, il dit tout le monde y trouve son compte d'une certaine façon. Donc, c'est le commentaire qu'il a émis ce matin en marge du salon là, des véhicules électriques. Et donc, comme je te le disais, les partis souverainistes crient victoire. Une victoire pour le droit des Québécois à disposer d'eux-mêmes, a écrit...
C'est quand même paradoxal, tu trouves pas?
François Lisée.
Le mouvement nationaliste et souverainiste crie victoire au moment où la souveraineté n'a jamais paru aussi loin.
Ben, c'est parce que sur le principe, c'est sûr que ça aurait été un autre clou dans le cercueil. Je pense qu'ils se disent, si on peut s'éviter un clou...
Oui, OK.
Si ça avait été... même François Legault, hein, j'ai eu un commentaire tout à l'heure. J'ai pu obtenir un commentaire. Alors, nous sommes en accord avec le jugement de la Cour supérieure. Le droit du Québec à l'autodétermination est à 50 % plus 1. Et la loi québécoise est valide. Bravo.
C'est ce que Legault a dit.
C'est le commentaire de la Coalition Avenir du Québec. Lui, je te rappelle l'ancêtre de la CAQ, l'ADQ, avait voté, était le seul autre parti à avoir voté
pour cette
en faveur de cette loi-là.
Mais il y avait juste Mario Dumont en chambre à ce moment-là,
voilà.
N'est-ce pas?
Ouais,
c'est ça. c'est important. Tu as raison de dire, c'est important parce que c'est un peu la coalition du référendum de 95 qui se manifestait à nouveau.
Pour une dernière fois, peut-être, je ne sais pas.
Alec, du côté fédéral, je ne sais pas si... Moi, j'ai eu ce matin tôt un courriel d'une source fédérale qui m'a donné la réaction du gouvernement fédéral, mais depuis, je n'ai pas remarqué, là, depuis...
Non, elle a moi, dû être... j'ai...
Tu ne l'as pas?
C'est... Non, c'est très, très calme. J'ai pas vu de déclaration en ce sens-là. Généralement, on se garde une réserve en attendant de savoir s'il y a un appel.
Alors, laisse-moi te le lire. Laisse-moi te le lire, vas-y si donc. Tu me permets, ouais, parce que ce matin, j'ai pas eu le temps, malheureusement, de la lire au microphone de Paul. Alors, le courriel, donc, il me vient d'une source qui est en autorité, mettons. La juge Dallaire a réitéré... Alors, c'est la réaction du gouvernement Trudeau, là. La juge Dallaire a réitéré les conclusions de l'avis de la Cour suprême de 1998. À l'effet que toute sécession éventuelle doit respecter le cadre constitutionnel canadien, une majorité claire en réponse à une question claire, ainsi qu'une négociation, une modification de la Constitution conformément à la loi constitutionnelle de 82. La Cour supérieure a conclu que la loi 99 vise essentiellement à réaffirmer des principes liés à la Constitution interne du Québec. Ce jugement, selon le fédéral donc, confirme qu'on ne peut enlever le Canada aux Québécois le Québec aux autres Canadiens sans respecter leurs droits constitutionnels.
Ah, que c'est beau ce mot-là!
Ben, grosso modo, ça aurait été étonnant que la juge ait contre la Cour suprême, là. C'était assez évident qu'on allait respecter le 50%, pas le 50% plus sûr, mais la majorité claire et la question claire là, de la Cour suprême. Ça aurait été étonnant que la juge n'ait pas dans ce sens-là. Moi, on m'avait dit à l'époque, autant au gouvernement Harper qu'au gouvernement Trudeau, que c'est une bataille qu'on n'avait pas le goût de faire. Hein. On a été un peu dragués là, par M. Anderson dans cette cause-là parce que le fédéral devait défendre sa juridiction, là, si je puis dire, là, sa constitution, les jugements, etc. Mais on avait l'impression là, que c'était uniquement pour mettre de l'huile sur le feu politique là, que M. Anderson amenait le fédéral dans cette cause-là. Moi, je me souviens de conversations avec des conseillers de Trudeau là, qui disaient « On est là à reculons et à notre corps défendant. » On n'a pas le goût de créer d'étincelles pour ranimer le mouvement souverainiste, puis on n'était pas trop heureux d'être partie prenante de cette cause-là. Donc, je trouve que la réponse qu'ils t'ont donnée va dans le sens de la prudence. Là, on réitère ce qu'on savait un peu déjà. Là,
mais il y a un élément qui m'a été soumis par un constitutionnaliste qui était assez enthousiaste à l'égard de ce jugement-là. Il disait « On préserve la loi 99 et on lui confère un statut de loi fondamentale ou de constitution interne. » Et donc, lui a vu dans le jugement, j'avoue que moi, j'ai pas fini de lire le jugement, où on émet des doutes sur la légalité de la loi, sur la clarté. Donc, ça, on pourrait trouver des choses dans le jugement qui vont contre ce que le fédéral vient de dire d'après.
Qui t'a dit ça?
Ah, un constitutionnaliste.
Un constitutionnaliste a dit que sur la base du jugement d'hier...
il y a des éléments qui mettent en doute la légalité de la loi sur la clarté.
Mais sauf que c'est la loi, sa clarté, elle est le résultat d'un jugement de la Cour suprême. Elle est l'aboutissement.
Le résultat d'une interprétation, du jugement de la Cour suprême.
C'est là que le constitutionnaliste...
Attention.
Ah ouais.
Ah oui.
Oui, non, t'as raison.
Elle n'a jamais été testée après.
T'as raison de dire que la Cour suprême ne s'est pas penchée sur la loi sur la clarté.
Il n'y a pas eu de Keith Anderson québécois pour aller la contester, si tu veux.
D'accord.
Parce que... Ouais. Et il y a un élément intéressant aussi, c'est que Et ça, tu vas voir à quel point ça me fait plaisir, moi, l'anti-provincial. Elle utilise, la juge, l'expression « l'État du Québec ». Okay. L'État du Québec.
Et que t'es excité.
Pour se désigner. Parce que c'est ça, dans la loi 99, on parlait de l'État du Québec.
Donc,
voilà. Elle a validé cette expression, comme celle du peuple du Québec, d'ailleurs.
Oui.
Bon, certes, sans se prononcer en droit sur la qualité du Québec comme peuple, mais quand même, l'expression peuple, l'expression État sont là. Bon. Alors, on est peut-être quelque chose de plus qu'un grand peuple.
C'était pas ça.
Non, c'est un petit peuple.
On est peut-être quelque chose comme un grand peuple.
Ah oui, c'est ça. Hein? C'est ça.
On est peut-être chose comme un grand peuple.
Mon
1976.
Ma citation de l'évêque était trop loin.
1976. Alex, comment ça va? Comment il va, Alec?
Il va bien.
Il va bien? Oui. Alors, parle-nous donc de Andrew Scheer. Scheer, puis d'ailleurs, il y a une cohérence de parler d'Andrew Scheer parce qu'il est en pleine campagne de séduction en s'engageant justement à donner à l'État du Québec plus de pouvoir en matière de culture et d'immigration. Hein. Il dit qu'il veut mettre de la chair autour de l'os de la reconnaissance du Québec comme nation.
Oui, de la motion qui avait été adoptée par la Chambre des communes en 2006. Ça fait partie de la tournée qu'il fait du Québec actuellement, donc il consulte Il y a même un site web là, qui va être mis sur pied. Les gens vont pouvoir écrire. Donc, ils consultent pour savoir comment on pourrait donner un peu plus de pouvoir au Québec éventuellement. C'est toujours de la musique aux oreilles des nationalistes québécois. Puis, ils se disent au Parti conservateur, un peu comme au NPD, qu'il y a peut-être un créneau à occuper là, maintenant que le Bloc québécois est en déroute, que Justin Trudeau a quand même une position là, qui n'est pas particulièrement nationaliste là, par rapport au Québec. Donc, peut-être qu'on a un électorat à aller chercher. Donc, Andrew Scheer est en train de faire cette tournée-là. Mais là, ce soir, il est dans Chicoutimi-le-Fjord.
Oui.
Pour lancer sa campagne à l'élection partielle avec son candidat local, Richard Martel, qui est l'ancien entraîneur des Saguenayens de Chicoutimi là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là, il a été entraîneur pendant 11 ans pour les Saguenayens. Parce que l'élection partielle, la date butoir commence à approcher. Hein,
ben,
pour la déclencher avant le 2 juin.
Parce ben que oui, le... oui, 2
ben,
juin.
Ben oui.
Puis Denis le... Oui, vas-y.
Non, je disais que Denis Lemieux, qui était le député libéral fédéral, qui avait été élu par 600 voix de majorité sur le NPD à l'époque en 2015, a quitté cet automne et on a 6 mois pour déclencher... Non, on a 6 mois pour annoncer oui. la date de l'élection partielle. Donc, on pourrait dire ben, avant le 2 juin, ben, on la déclenche l'automne prochain, par exemple. Donc, on a 6 mois pour se prononcer. Mais c'est 2 juin. Il faut qu'on dise quelque chose avant le 2 juin. Ça s'en vient, là. C'est
mais
dans 6 semaines.
Mais tu as les mêmes informations que moi à l'effet que les fédéraux, le gouvernement Trudeau, souhaitent que cette élection se tienne avant la Saint-Jean-Baptiste. Ils veulent pas repousser ça à l'automne prochain en même temps que les élections québécoises. Là.
Non, idéalement, effectivement, on le ferait avant, mais là, ça commence à tarder un peu. Puis il n'y a toujours pas de candidat sur les rangs pour les libéraux fédéraux. Le Bloc québécois n'a pas de candidat non plus. Le NPD en a un, ben, du moins, il n'est pas investi officiellement, mais Éric Dubois, qui est un conseiller de la CSN, qui a déjà été candidat pour le NPD dans cette circonscription-là en 2004 puis 2006, veut se présenter, mais il n'a pas été investi à ma connaissance. Mais Richard Martel, lui, est choisi par le Parti conservateur depuis des mois. Il attend, il piaffe d'impatience. Donc, on y ouvre son local électoral ce soir. Commence sa campagne. Même si la date n'a pas été annoncée, commence sa campagne. Les conservateurs ont beaucoup d'espoir avec Richard Martel, qui est très connu, là, je le disais. Il a fait quand même carrière au hockey junior. Puis les Saguenayens là-bas, hein, c'est une institution. Hein, tout le monde connaît Richard Martel. Donc, c'est un candidat quand même de qualité qui devra faire attention à son caractère bouillant. Hein, on m'a rappelé lorsque j'ai fait quelques coups de téléphone que cet homme avait quand même beaucoup de caractère.
De chaise de lancer sur la glace.
Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de stuff de junior dans ses équipes, comme on dit, quand il était à la tête de différentes équipes. Écoute, la dernière fois qu'on avait entendu parler de lui, là, pour la petite anecdote, là, c'était en 2015, il dirigeait les Brûleurs de loups de Grenoble, en France.
Les Brûleurs de loups?
Ça s'appelle comme ça, le nom de l'équipe. Brûleurs de loups de Grenoble, en France. Puis dans les séries éliminatoires, il jouait contre les Ducks de Dijon. Et il perdait 6-2, il restait 33 secondes à faire au match et il a envoyé un de ses joueurs frapper le gardien de but adverse.
Hein?
Comme vraiment l'une des pires commandes que tu peux faire au hockey. Au point où quand il est rentré dans le vestiaire, ses joueurs l'ont pas laissé rentrer. Alors, il est obligé de retourner à Grenoble par un autobus différent. Ils n'ont pas pu rentrer dans l'autobus de l'équipe. Et il a été mis à la porte par le hockey français quelques jours plus tard. Donc, c'est comme ça que sa carrière en France s'est terminée.
C'est slapshot.
Pour te dire qu'il était quand même bouillant là. Il est pas exempt de controverses, mais c'est clair qu'en termes de notoriété, faites attention à vos têtes. Mais en termes de notoriété,
ça ressemblerait peut-être à Alain Terrien. Moi, le député de Sanguinet, que j'appelle parfois le député de Sanguinaire.
le député sanguin, oui.
Oui.
Oui, oui.
Voilà. Mmh. Une petite parenthèse comme ça pour déranger Alec.
Je voulais juste dire que lui, du moins, est confiant avec le Parti conservateur de faire une bonne performance parce qu'il est connu. Puis bon,
il a hâte d'en découdre, comme on dit.
Il a hâte d'en découdre. Ben, pour rester dans le thème, il a hâte d'en découdre, effectivement.
Absolument. Alors, on va s'arrêter parce qu'au retour, on va parler des annonces. Écoutez, là, aujourd'hui, les libéraux, encore une fois, là, aïe, aïe, ça n'arrête pas. Le véhicule électrique, l'autoroute 19, il y a une autre autoroute aussi. Ils ont rajouté un bout, là, quelque part, je pense, en Chaudière-Appalaches ou je sais pas trop. Antoine va nous parler de ça dans un instant et on va parler également du pipeline Trans Mountain, tout ça après la pause.
On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple.
Donc, de retour avec Antoine et Alec pour parler donc politique. Antoine, parle-nous donc de cette annonce de Philippe Couillard sur les véhicules électriques.
Oui, Il était au salon du véhicule électrique de Montréal. C'est la troisième édition de ce salon. Et il fait la promotion du véhicule électrique. Et dans un Facebook Live ce matin, juste avant d'entrer, il a déclaré ce qui suit.
La deuxième édition du salon du véhicule électrique. Et moi, ce que je veux vous dire, venez voir ça. Informez-vous sur les véhicules électriques. Voilà un beau choix à faire pour les Québécois. Pourquoi? Si vous faites le plein de votre voiture à essence, où envoyez-vous l'argent? Si vous chargez la batterie de votre véhicule électrique, vous gardez l'argent au Québec. C'est un beau geste de nationalisme économique. C'est un beau choix qu'on peut faire maintenant. Les prix baissent, il y a du soutien gouvernemental. La technologie est en progression constante. Mais avant de prendre la décision, venez vous informer.
Et il a prononcé le mot nationalisme!
Pas pire, hein?
Non, mais attends, il a prononcé le mot nationalisme.
Ça a dû brûler la bouche.
Ah, mais hein? Hein?
Je sais pas.
Alors, il a annoncé plus de bornes, hein,
c'est ça? J'ai hâte de voir si la limousine du premier ministre va être électrique, avec de si beaux principes, mais ça serait peut-être compliqué. Hein.
Je dirais que oui.
Encore
On le souhaiterait, mais oui. C'est parce que les batteries ne donnent pas assez d'autonomie.
C'est ça, puis premier ministre, ça se promène.
Ah, vraiment?
Hein? Ça a besoin de...
Puis le temps est précieux, ce que maintenant. Tu veux. Alors, il a annoncé plus de bornes, n'est-ce pas?
Oui, exactement.
Hein, c'est ça, là.
Il a annoncé... et il y a eu une autre annonce intéressante. La ville de Laval, imagine-toi donc, ajoute une subvention pour ceux qui vont se porter acquéreurs d'une voiture électrique.
2 000, hein?
2 000 $ de...
En plus du 8 000 que, les gouvernements, que le gouvernement du Québec...
Alors, si tu habites à Laval...
Ouais.
T'as 10 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique. Ça commence à être intéressant.
Ben oui.
Mais c'est curieux. C'est la première fois que je vois ce type de programme-là dans une municipalité. Mais il paraît que... C'est vrai, non? T'as l'air surpris?
Je réfléchis.
C'est vrai, hein?
Oui, je pense
que précédent d'une municipalité qui aide des particuliers à acheter un bien.
Oui,
en tout cas... j'ai jamais vu ça.
Alors, il double pratiquement le nombre de bornes, non?
Ah oui. Écoute, j'ai pas les chiffres exacts avec moi, mais il y a ça aussi. À Laval, on va ajouter des bornes. Mais les voitures, c'est beau, mais il faut rouler sur quelque chose. Et là, il faut rouler sur des routes. Et cet après-midi, donc, on va annoncer la 19. Je pense que tu en as parlé en première heure, prolongement de la 19. Et j'ai vu tout à l'heure aussi qu'aujourd'hui, Véronique Tremblay et Paul Busque ont annoncé en Chaudière-Appalaches là, le prolongement, l'engagement du gouvernement pour le prolongement d'une autre route importante, l'autoroute 73,
L'autoroute de la Beauce. Paul Busque, c'est le député libéral de Beauce-Sud.
Exactement.
Alors, ils vont le prolonger de combien de kilomètres?
J'ai pas tous les détails, là, ça m'a étonné moi-même.
Ça, c'est vraiment là, la 73.
À force d'annoncer comme ça des prolongements, là, on oublie ce qui était dans le budget, c'est-à-dire ce qu'on a découvert dans le budget, c'est qu'avec le parc autoroutier et routier qu'on a actuellement, on n'est pas capable de l'entretenir comme il faut. On a quoi? 14 milliards de déficit d'entretien sur les routes
et autoroutes déjà existantes.
C'était dans le budget.
Ouais.
Il me semble que ce qui serait raisonnable, c'est d'arrêter d'annoncer des nouveaux bouts de route, même si on est en élection.
Puis s'occuper de ceux qui existent déjà.
Ben, évidemment. Et je me souviens que c'était après l'effondrement du viaduc de la Concorde. Ça avait été une annonce du gouvernement Charest que désormais, il y aura comme une sorte de ratio, là, qu'on n'allongerait pas les routes et qu'on mettrait une grande partie dans l'entretien.
Oui.
Mais
les populations veulent...
Je vois les annonces. Les populations
veulent ça, hein?
Ça, je sais. Mais...
Mais tu dis qu'à un moment donné, il faut résister à la pression populaire.
Ben, les populations
être davantage responsable.
Les populations voudraient des jets privés et moins payer d'impôts. C'est à la limite, là, tu sais, je caricature, mais c'est ça. On est tous comme ça.
N'oublie pas, il y a des élections qui s'en viennent, là.
Hey, Lucien Bouchard, ça va ce corps.
Mais non, il ne veut pas sortir.
Parce que vous avez gagné en cours supérieur.
Il ne veut pas sortir, il est pogné là, là. Bon, Alec...
Oui.
Alec, ça va? Parlons d'infrastructure, mais d'un autre type.
Oui.
Infrastructure
tuyaux,
pétrolière.
Oui, je suis dans le tuyau, moi.
Oui, c'est
Parce qu'on a des chiffres. On a des chiffres tout frais, mon cher Bernard.
Mais t'es pas dans le tuyau comme ça, là.
Non, je suis pas dans le bonhomme carnaval.
On continue ce vendredi. On déconne un peu trop, là.
Mais Alec, t'as des chiffres?
Ah, et moi, j'aime les chiffres, tu le sais. Alors, on a un sondage Angus Reid, tout frais, sorti donc de la machine à saucisses. Et ce qui est le fun d'Angus Reid, 2125 répondants, marge d'erreur de 3%, c'est qu'ils ont sondé à travers le pays sur la popularité du projet de Trans Mountain, le fameux pipeline de Kinder Morgan qui part de l'Alberta et qui va en Colombie-Britannique. Mais ils l'ont fait, donc, dans les derniers jours, et ils l'avaient fait en février. Avant que toute la controverse commence, ou du moins que nous, on s'en rende compte qu'il y a une controverse, parce qu'il y en avait déjà une en Colombie-Britannique, là, mais que nous, on participe à travers le pays à cette controverse-là. Et donc, on peut voir l'évolution de l'opinion publique. Et ça, c'est très intéressant, parce que regarde, à travers le pays, donc le sondage qui vient de sortir cette semaine, 55% des Canadiens sont en faveur du projet de Kinder Morgan. C'est une hausse de 6 points par rapport à février, où c'était 49%. Donc, il y a plus de gens en faveur du pipeline maintenant qu'il y en avait il y a 2 mois. Et il y a 26% des Canadiens qui sont contre. Ça, c'est une baisse de 7 points par rapport à février, où on était à 33%. Puis il y a 20% des Canadiens, donc 1 sur 5, qui ne sait pas quoi penser du projet. 55-26, c'est un appui majoritaire. Maintenant, on va aller voir en Colombie-Britannique. Ça aussi, c'est intéressant, parce qu'on le sait, l'opposition est forte. Le maire de Vancouver, le maire de Burnaby, le premier ministre de la province, les groupes autochtones, les groupes écologistes. Et je te disais, je te l'ai répété pendant des jours, c'est beaucoup plus divisé qu'on le pense en Colombie-Britannique. Hein?
Tu as raison.
Je te disais que les groupes étaient très vocaux, très visibles, parce que les opposants sont forts et ont des tribunes, mais que les Britanno-Colombiens étaient divisés. Et le sondage le confirme, 54% des résidents de la Colombie-Britannique sont en faveur du projet. C'était 48% en février. Donc là aussi, on a une hausse de 6 points en faveur du projet en Colombie-Britannique. 38% sont contre. C'était 40% en février. Il y a un appui majoritaire partout à Vancouver, dans la grande région de Vancouver, dans les campagnes. Donc, le long du tracé, c'est controversé, mais dès que vous sortez de ce tracé-là, vous vous rendez compte que les Britanno-Colombiens sont plutôt favorables. Et ce qu'ils craignent vraiment, parce que Angus Reid a posé la question, c'est pas les émissions de gaz à effet de serre, c'est pas un écoulement ou une fuite du pipeline, c'est l'augmentation du nombre de pétroliers dans la baie de Vancouver et de Burnaby. C'est ça qu'on a peur. On a peur d'un pétrolier qui s'échoue, d'un accident de navire. Si on était capable de les rassurer là-dessus, parce que c'est plus de 70% qui disent que c'est leur crainte principale, si on les rassurait sur la qualité des services des gardes-côtes, entre autres, par exemple, ou la capacité de réponse à un problème de navigation, clairement, ils seraient rassurés parce que c'est là que le gros problème se trouve. Et au Québec, juste parce que c'est le fun de le savoir, si on avait beaucoup d'emprise sur ce débat-là, mais au Québec, 46% des Québécois sont d'accord avec le projet, 31% sont contre. Puis il y en a 23 qui ne veulent pas se prononcer. C'est intéressant. Mais là où il y avait une autre question
Mais juste avant que tu ailles à l'autre question, Alec.
Oui, vas-y.
Est-ce à dire que Justin Trudeau, d'une certaine façon, tu sais, on dit depuis le début, il prend un grand risque politique parce qu'il ne gagnera pas plus de comtés en Alberta, mais il risque de perdre dans un an et demi aux élections fédérales, les comtés libéraux qu'il a en Colombie-Britannique, il y en a quand même plusieurs.
18.
J'allais te poser la question. Est-ce à dire que, d'une certaine façon, par sa position, il est en train de gagner son pari, ou à tout le moins, les risques politiques pour lui sont peut-être beaucoup moindres qu'on le pensait en Colombie-Britannique?
Dans la mesure où
la majorité l'appuie?
Oui, c'est ça. Je pense que, comme je le disais, le long du parcours, là où il y a des sièges libéraux, je pense qu'il y a certainement une certaine fragilité. Mais c'était beaucoup l'autre pipeline que Justin Trudeau a rejeté, le Northern Gateway, qui était très controversé et sur lequel les libéraux ont fait campagne à l'époque. Et ça, il a respecté sa promesse. Il n'a pas autorisé ce pipeline-là. Par contre, l'autre, Kinder Morgan, qui est en cause actuellement, lui, comme je te dis, c'est plus mitigé. Là. Il y a clairement des Britanno-Colombiens qui trouvent que c'est pas un projet à ce point négatif. Donc, peut-être que Justin Trudeau a moins à craindre que prévu, mais la suite va être intéressante. Et ça, là, je t'amène à l'autre question dont je voulais te parler.
Vas-y.
Parce que Angus Reid a demandé, est-ce que c'est une bonne idée d'investir de l'argent public dans le projet? Parce que l'Alberta et l'Ottawa considèrent cette possibilité-là pour faire patienter les actionnaires de Kinder Morgan le temps que les recours judiciaires nombreux tranchent la question. On pourrait investir de l'argent public. Et là, les Canadiens trouvent que c'est pas nécessairement une bonne idée, là.
Oh.
Alors, il y a 56% des Canadiens qui sont contre, qui disent que ce serait une mauvaise utilisation des fonds publics. 44% qui sont pour. Et Québec et Ontario, on est dans la moyenne, donc la majorité s'y oppose. En Colombie-Britannique, on est 70% à s'opposer à l'idée que le fédéral et l'Alberta soient actionnaires du projet. Donc, clairement, on trouve que c'est pas une bonne idée. Et même en Alberta, où on pourrait penser que tout le monde trouve que c'est une bonne idée, c'est très serré. 52% pour, 48% contre. Fait que t'as la moitié des Albertains qui trouvent que c'est pas une bonne utilisation des fonds publics que d'investir dans ce projet-là. Ils veulent que ça soit construit, mais de là à prendre de l'argent des contribuables, là, visiblement, là, il y a une froideur par rapport à cette possibilité-là. Et on le sait que c'est ça qu'Ottawa est en train de regarder comme idée. Fait que si jamais on va dans ce sens-là, là, il y a peut-être un peu plus, un risque un peu plus grand de ressac pour Justin Trudeau.
Oui, oui. Et tu as raison de noter aussi que la compagnie, dans des commentaires qu'elle a fait hier, je pense dans un appel conférence avec, oui. Avec les
investisseurs,
les
là,
investisseurs
oui.
Voilà, elle a réitéré que le projet restait très, très fragile. Il a même utilisé le mot « untenable », intenable.
Oui, c'est hein? Steve Keane, qui est le PDG de Kinder Morgan, qui dans cet appel-là dit « Écoutez, ça reste très polarisé, la situation pour nous, politiquement, elle est intenable et on est ouvert aux discussions avec les gouvernements pour voir comment ils peuvent s'impliquer dans le projet. » Donc, mettons que sans dire que c'est fait, si l'offre est bonne, Kinder Morgan serait d'accord pour vendre une partie de sa participation dans le projet au gouvernement.
Mais quand je voyais ça, ce mot-là, qui est quand même un mot fort, je me suis posé la question, est-ce que malgré les assurances du projet de loi à venir de Justin Trudeau puis les investissements éventuels du fédéral et de l'Alberta, je me suis posé la question, ça se pourrait-tu que Kinder Morgan tire quand même la plug sur le projet en disant, même si vous voulez nous rassurer politiquement, même si vous voulez nous sécuriser financièrement, on considère que le risque est encore trop grand et puis on va mettre nos billes ailleurs, donc le projet fini.
Ah oui, moi je pense que oui.
C'est possible, hein?
Je pense que oui, parce que c'est pas comme si c'était un nouveau projet. Là. Il y a déjà 300 000 barils de pétrole qui transitent par le Trans Mountain. Ils peuvent tout simplement dire on abandonne le projet d'agrandissement, on reste avec le pipeline qu'on a depuis 50 ans dans la terre, puis on va continuer à faire de l'argent avec ce pipeline-là. Puis le reste, ben les investissements de 7,4 milliards, c'est trop risqué pour nous, même si le gouvernement investit un peu d'argent dans le projet. C'est une possibilité. TransCanada avec Énergie-S a fait la même chose.
Ben
ils ont décidé qu'à un moment donné, c'était intenable, que politiquement, il y avait trop de controverses en Ontario, au Québec, puis que c'était plus rentable parce que ça allait déboucher sur un paquet de recours judiciaires. On peut décider chez Kinder Morgan de faire la même chose
et
se retirer. C'est toute possibilité.
Je réfléchis à voix haute avec toi, là, mais je me demande si ce ne serait pas une issue souhaitable dans la tête de Justin Trudeau. Parce qu'il sait qu'en Alberta, les risques de croissance électorales sont minces. Si le projet ne se réalisait pas en Colombie-Britannique et que l'enjeu, dans le fond, disparaît pas mal de l'écran radar d'ici les prochaines élections, d'ici 18 mois, je me demande s'il n'aura pas, dans le fond, fait match nul, au pire.
Peut-être, mais il faudra qu'il s'explique quand même parce que lui, tout son plan sur les changements climatiques reposait sur un équilibre entre, d'un côté, on met une tarification sur le carbone, on ferme les centrales au charbon, on va aller un peu plus, de manière plus musclée contre les changements climatiques, mais en échange, ça nous prend au moins un pipeline qui s'en va vers les marchés asiatiques pour aller chercher un meilleur prix pour les ressources. Tout son équilibre de vente dans l'Ouest est basé là-dessus. Donc,
la taxe sur le carbone.
Il se ferait accuser de ne pas avoir livré la moitié de son entente, de son deal offert au. Fait que moi, je pense qu'il serait tenu responsable quand même, mais c'est pas comme s'il pourra pas dire qu'il a pas essayé. Ça, c'est clair. Il l'avait approuvé. Il est résolument en faveur. T'as raison que peut-être qu'en bout de piste, ce serait pas trop dommageable, mais je pense qu'il aimerait mieux qu'il soit construit quand même. Je pense encore que c'est ça.
Très bien. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Merci à vous deux.
Bonne fin de semaine.
Et le printemps, je vous le rappelle, qui commence demain, ça paraît vraiment pas, mais les météorologues nous disent que c'est vraiment demain. Les grenouilles, les wawarons et les crapauds de notre marais des batraciens sera très, très, très heureux. Dans un instant, Loïc Tassé avec l'International.